إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث متواصلا في بيان أحكام الإقامة والآذان، وتوقفنا في الحصة الماضية حول مواضيع متعلقة وأحكام مرتبطة بهذا الباب العظيم وهو الآذان والإقامة، وتطرقنا فيه بطرح بعض الأسئلة والأجوبة للاستفادة، وسنواصل إن شاء الله تعالى بطرح هذه الأسئلة حتى تعم الفائدة. واخترت 5 أسئلة من كتاب صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الكتاب يتبادر للسامع أنه كتاب الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة ليس كذلك، فكتاب صلوا كما رأيتموني أصلي كتاب آخر قدمه الشيخ خالد بن علي المشيقح، فهو كتاب نافع جمع كل ما يتعلق بالصلاة ومقدماتها، فهو كتاب نافع يستفيد منه الطالب. فاخترت من هذا الكتاب 5 مسائل تكون على شكل أسئلة، وإن شاء الله تعالى كعادتنا نعرضها على الحاضرين، ومن أجاد في الإجابة نقدم له كتابا إن شاء الله تعالى. فاخترت 5 أسئلة من هذا الكتاب القيم، وإن تيسر لنا من الوقت سأعرض أيضا، واخترتها من كتاب أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. اخترت أيضا 5 أسئلة متعلقة بالآذان والإقامة، وإن تيسر بعد ذلك وبقي لنا وقتا إن شاء الله تعالى ربما نذكر أحكاما متعلقة بالآذان. وقبل أن أبدأ بطرح الأسئلة، وذكرت في الحصص الماضية أن باب الآذان والإقامة ما نستطيع أن نتكلم على كل المسائل المتعلقة بالآذان والإقامة في حصص تعد على الأصابع، وهي حصتنا الرابعة، وكما سمعتم كل مرة نذكر ونتدارس مسائل مختلفة. ومن باب الإفادة، هذا الباب هو الآذان والإقامة أيضا كتاب يعني وباب مهم لا شك. ففي الحقيقة توقفت على كتاب اسمه أحكام الآذان والنداء والإقامة، دراسة فقهية مقارنة، تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعود ابن إبراهيم ابن محمد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام. ففي هذا الكتاب رسالة ماجستير تعرض إليها، وكان موضوعها الأحكام أو أحكام الآذان والنداء والإقامة. فانظروا، تطرق لرسالة ماجستير، وكان موضوع هذه الرسالة هذا الكتاب أحكام الآذان والنداء والإقامة، بمعنى أن في هذا الكتاب كله ما تكلم عن حكم آخر إلا في الآذان والنداء والإقامة. لهذا ما نستطيع في حصص محدودة محصورة أن نتكلم عن كل أحكام الآذان والنداء والإقامة، لكن أختار ما أراه مناسبا لحال الحاضرين وحال المسجد، فأختار يعني الأسئلة المناسبة حتى تعم الفائدة. Donc je disais, on continue toujours les séances ou les doros concernant la matière de jurisprudence et qui traite le sujet, le jugement de l'adhan et l'iqama. Et c'est notre quatrième séance, et comme je viens de le dire, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important, et de le traiter dans quatre ou cinq séances, des séances limitées, nombrables, c'est pas suffisant. Et je viens de parler sur un livre sur lequel j'ai oublié de vous parler, même si je l'avais depuis un moment, un livre complet, un mujallad, qui traite que le sujet de l'adhan et l'iqama. Un livre complet. C'est pas quelques pages. Un livre complet qui a le nom Ahkam al-Adhan wa al-Nida wa al-Iqama. Les jugements de l'adhan et al-Nida wa al-Iqama. Et ce livre, il a introduit le docteur Saoud ibn Ibrahim ibn Muhammad Shurayn. Vous connaissez Shurayn, qui est l'imam et khatib al-Masjid al-Haram de Mecca. Donc lui, il faut savoir, c'est un docteur. Cheikh Shurayn, ce n'est pas une personne qui récite le Coran, mais il a un doctorat, il est spécialisé dans les usul fiqh, dans les fondements du jurisprudence. Et lui, il a introduit ce livre qui traite les jugements, un livre complet, Ahkam al-Adhan wa al-Nida wa al-Iqama. Et ce livre, c'est une lettre du magistère. Un sujet, le sujet du magistère d'un talibin, d'un étudiant, c'était de traiter les jugements de l'Adhan et l'Iqama. Un livre complet, il s'appelle Ahkam al-Adhan wa al-Nida wa al-Iqama, c'est un sujet de magistère. C'est-à-dire au moins un an ou deux ans pour le faire. C'est pour ça que j'ai dit traiter tous les sujets concernant l'adhan et l'iqama, c'est pas suffisant. Et c'est notre quatrième séance. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai choisi les sujets les plus importants par rapport à ceux qui assistent ou qui écoutent les doros, et aussi par rapport à notre mosquée. C'est-à-dire, j'ai parlé sur le plus important. Mais ça ne veut pas dire qu'on a terminé, on a traité tout ce qui concerne l'adhan ou l'iqama. Donc c'est pour cela, celui qui veut avoir plus de détails, plus d'informations, ou il veut avoir une recherche particulière sur un sujet bien particulier, qu'il revient à un de ces livres qui est Ahkam al-Adhan wa al-Nida al-Iqama, et aussi certainement il y a autre livre qui traite ce sujet. Et aussi, je me base sur le livre de Sallu Kama Ra'aytumuni Usalli. C'est un autre livre dans lequel j'ai choisi cinq questions. Cinq questions. On va les poser, et comme d'habitude, celui qui répondra correctement, il méritera un livre. Et si on aura le temps, aussi, j'ai choisi cinq autres questions du livre Arkan al-Islam. Arkan al-Islam. De Cheikh al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala. Le premier livre, Sallu Kama Ra'aytumuni Usalli, c'est un livre aussi qu'il a introduit à Cheikh Khalid ibn Ali al-Mishiqah. Aussi, c'est un professeur dans la matière de jurisprudence. Il a introduit ce livre qui s'appelle Sallu Kama Ra'aytumuni Usalli. Faites la prière comme. Hein? Comme j'ai prié. C'est un autre livre qui traite la prière. Et ce n'est pas le livre de Cheikh Albani, rahimahullah.
le plus connu dans la façon de faire la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli, ce n'est pas celui de Cheikh Albani, mais c'est un autre livre, c'est un autre ouvrage, qui a le presque le même nom, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc il traite la matière de, ou en particulier le chapitre de la prière. Il traite tous les sujets de la prière. Même ça, il parle sur la, c'est-à-dire avant de faire la prière, sur la purification, sur l'adhan, sur l'iqama, sur la prière en groupe, certaines autres prières. Il est très dans ce livre, dans lequel j'ai choisi le chapitre de l'adhan l'iqama et j'ai tiré 5 questions. Même si c'était pas, ils sont pas, c'est pas des questions tirées qui sont dans le livre, mais on pourra les poser de forme des questions. Et le deuxième livre, comme vous le savez, les fatawa sur les 5 piliers de l'islam de Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, je l'ai en arabe, et comme vous savez on avait déjà traité certaines questions réponses de ce livre Fatawa Arkan al-Islam. C'est un livre très bien et même il est en français, il existe en français sur 2 volumes en français. Donc on commence par une question pour commencer la séance. هل على النساء آذان وإقامة? La première question, est-ce que pour les femmes il y a le adhan et l'iqama comme les hommes? C'est la première question. Mohamed. C'est pas obligé et elles peuvent le faire. À condition que les hommes n'entendent pas la voix de la femme, c'est-à-dire le adhan des femmes. Non, c'est possible. Wal-jama'a. Taïr. C'est une autre réponse. Laïsa ala adhanum. ولا إقامة. نعم الحسن. Et s'ils sont pas dans la mosquée, s'ils sont pas dans la mosquée, hein? D'accord. On remarque qu'il y a plusieurs réponses. C'est quoi le plus juste? Ce que je peux te dire, c'est une bonne réponse, mais il faut revoir à ce que c'est le bon hadith sur lequel on peut s'appuyer. Il faut revoir, je ne connais pas ce hadith, mais on va chercher, Inch'Allah, le hadith et sa chaîne de transmission et qu'est-ce qu'ils ont dit les savants sur ce hadith. Mais la réponse, elle n'est pas loin, elle est pas, je veux dire, elle est plus que correcte. On remarque qu'on a plusieurs réponses. Je vais vous lire ce qu'il a dit, l'auteur du livre, qui est introduit par Cheikh Khalid ibn Ali al-Mshiqah. قال ليس على النساء آذان ولا إقامة وهو قول جمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. Le résumé de la réponse. Il a dit, il n'y a pas pour les femmes ni adhan ni iqama. Et c'est l'avis de la majorité des savants, des sahaba et tabi'in, ceux qui les succèdent. Wa huwa qawl, et c'est l'avis de 3 écoles sur 4. Al-Hanafiya, l'école Hanafite, et l'école Malikite, et l'école Hanbalite. On a 3 écoles, ils ont choisi cet avis, que il n'y a pas de adhan, ni iqama pour les femmes. Donc ça, c'est un jugement qui concerne les femmes. A bien de le transmettre. وهل يسن لهن ذلك Mais est-ce que c'est une... il est légiféré qu'il le fasse ou qu'elle le fasse? Hal yusannu, est-ce qu'il est préférable qu'elle le fasse? Qala Ahmad. Ahmad ibn Hanbal a dit: In fa'alna fala bas. S'ils le font, il n'y a pas de mal. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire à la base, il n'est pas légiféré qu'elle fasse adhan et iqama. Mais si elles le font, il n'y a pas de mal. Selon Ahmed ibn Hanbal. Qal in fa'alna fala ba'sa. Wa in lam yaf'alna faja'iz. Et même s'ils ne font pas, il n'y a pas de mal. Est-ce que c'est clair? Donc dans les deux cas, s'ils le font ou le font pas, il n'y a pas de mal. Wa qala ash-Shafi'i in adhanna wa aqamna fala ba'sa. L'imam Shafi'i dit: et s'ils font adhan et l'iqama, il n'y a pas de mal. Est-ce que c'est clair le jugement de l'adhan ou l'iqama pour les femmes? Shafiq. J'arrive. Est-ce que juste on a compris, après on va... En général, pour les femmes. Donc ça, c'est la réponse du Cheikh. Si on revient au livre, qui est une recherche, c'est une magistère, le magistère, concernant l'adhan et l'iqama, il a traité ce sujet. Le sujet de, concernant l'adhan et l'iqama pour les femmes. Aussi, dans le livre de Ahkam, les jugements du adhan et l'iqama, il a traité ce sujet qui est le sujet numéro 8 dans le livre. Il a dit al-adhan wa al-iqamatu lin-nisa. Donc ce qui confirme aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire le premier livre, aussi l'auteur du livre, parce qu'il a cité des paroles des savants. Ittafaqa jumhur al-fuqaha'i 'ala annahu laysa 'ala an-nisa'i adhan wa la iqama sawa' kana adhanuhunna aw iqamatuhunna li jama'ati an-nisa'i aw li nafsiha munfarida. Il a dit la majorité des savants de la jurisprudence, ils sont mis d'accord qu'il n'y a pas pour les femmes ni à adhan ou iqama. Soit, il confirme, soit adhan, soit iqama. Soit, si elles sont en groupe, soit si la femme est individuelle. Si la femme, elle est seule. Est-ce que c'est clair? Un commentaire. Ensuite, il a cité même les ouvrages des quatre écoles. Des quatre écoles qu'ils ont y a tiré ce résumé. Et les ouvrages, celui qui veut revenir, Al-Ifsah l'Ibn Habira, Al-Mabsoud, aussi Bada'i al-Sana'i, aussi Al-Mudawwina, aussi Mawahib al-Jalil al-Hattab, aussi Al-Umm, aussi Al-Hawi al-Kabir, aussi Al-Mughni, aussi Al-Insaf. Tous ces ouvrages que je viens de citer, c'est des ouvrages des quatre écoles. Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Les quatre, la majorité des savants de jurisprudence, ils se sont mis d'accord, il n'y a pas de adhan et de qama. Soit elles sont en groupe, soit elles sont seules. Et certainement, ça c'est juste le résumé dans ce livre, mais en réalité il a cité les avis et les arguments de chaque école, ensuite il a discuté, il a essayé de prédominer, et c'est le résumé que je viens de lire. Celui qui veut revenir, parce que je vous ai dit, une séance d'une heure et demie, c'est pas largement suffisant de rentrer dans le sujet, mais c'est ça le résumé. Tout à l'heure on parlera sur les arguments, etc. Inch'Allah. Dans ce livre, la page 351, le sujet numéro 8, Al-Adhanu wa al-Iqamatu lin-Nisa. Dedans, il va traiter tout le sujet en détail. Et même ce qui confirme aussi cette fatwa, bon, on a cité même les avis de quatre écoles, et aussi même il y a une fatwa de l'ajna da'ima.
Une fatwa
de l'ajna da'ima qui aussi, il confirme ce qu'on vient de lire. Et on va lire la question numéro 1 et la fatwa numéro 4522, le mujallad numéro 6 pour la page où ils sont au 85.
هل يجوز للمرأة أن تؤذن وهل يعتبر صوتها عورة أم لا؟ أولا ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء.
اللجنة الدائمة qui est la comité des grands savants à l'époque de Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, ils ont posé la question: هل يجوز, est-ce qu'il est autorisé pour la femme qu'elle fasse l'adhan, et est-ce que sa voix c'est une aura ou non? Donc la première réponse, la première partie de la question, laysa 'ala al-mar'ati an tu'adhina 'ala sahih. Il n'y a pas de adhan pour les femmes, ou la femme ne fait pas le adhan 'ala sahih, c'est-à-dire l'avis le plus juste parmi les avis des savants.
Li'anna dhalika lam yu'had isnaduhu ilayna. Wa law tawayyala توليها إياه وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه.
C'est quoi le dalil? Que, donc ça c'est la réponse de l'ajna da'ima. C'est quoi le dalil sur lequel sont appuyés les savants? On va citer par exemple la fatwa qu'on va de dire, que il n'y a pas de adhan pour les femmes. C'est quoi le dalil? C'est quoi l'argument? Barakallahu fik. Ad-dalil, adam, ad-dalil. C'est pour ça, dont certains savants sont appuyés sur un hadith. Laysa ala nisa'i adhanun wala iqama. Et ce hadith est dans Sunan al-Bayhaqi. Et les savants sont divergés sur le hadith. Il y a un hadith. Ceux qui l'ont authentifié, c'est un argument pour eux. Ceux qui n'ont pas authentifié le hadith, ils l'ont affaibli. Ils se sont appuyés sur autre chose. Est-ce que c'est clair? C'est pas sur le même hadith, mais sur autre chose. Et il a dit, si c'était légiféré, on aura au moins un texte. Pourquoi? Certainement, les sahabas, ils ont transmis la législation. Comment on n'a aucun texte qui dit ou qui transmet que la femme, à l'époque du Prophète ou du Sahaba, et en particulier surtout les jeunes dames, elle a dit, wala fi zamani al-khulafa'i ar-rashidin, même dans le temps des quatre califes, il n'y a aucun texte qui est arrivé, qui est authentique, qui qualifie la façon, qui qualifie le adhan pour les femmes. Donc je répète, il y en a qui sont appuyés sur, c'est pour ça dans le livre, il traite le hadith et des autres affaires, que il n'y a pas le adhan pour les femmes. Et l'ajna daima, elle dit qu'il n'y a aucun dalil. C'est ça le dalil. Que le fait, il n'y a aucun dalil pour qui confirme qu'il y a un adhan pour les femmes. Donc ça, ça concerne la première question concernant le jugement du adhan et l'iqama pour les femmes. On passera à la deuxième question.
هل يشترط أن يقيم من يؤذن?
Est-ce que c'est une condition de celui qui fait l'iqama, c'est celui qui fait l'adhan? Oui ou non? Qui a vu dans une mosquée, une personne a fait l'adhan et un autre a fait l'iqama? Au chantier du coq, c'est ça? Je sais, ça on le sait ça. Je parle en général. Hein? Si, c'est une mosquée, alhamdoulilah. Masjid ala sunna. Ici, qui a vu ça? Est-ce qu'on peut faire ou pas? Oui ou non? La réponse,
La yushtaratu.
Donc la deuxième question, la réponse de la deuxième question.
La yushtaratu an yughima man adhana. وقد ورد في ذلك حديث رواه حديث زياد ابن الحارث رضي الله عنه وفيه من أذن فهو يقيم.
Il dit, ou la réponse, ce n'est pas une condition de celui qui fait l'iqama, c'est celui qui fait l'adhan.
Et il y a un hadith de Ziyad ibn al-Harith, radiallahu anhu,
qu'Allah soit satisfait de lui,
qui dit, celui qui fait l'iqama, c'est celui qui fait l'adhan. Man adhana fa huwa muqim. Celui qui fait l'adhan, donc c'est celui qui va faire l'iqama. لكنه حديث ضعيف وعليه فلا يجب العمل به.
Mais en réalité le hadith il est faible. Donc ce n'est pas un argument pour dire de celui qui fait l'iqama, c'est toujours ou c'est une condition celui qui doit faire l'iqama.
Et le hadith, pour vous informer, rawahu Ahmed وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وضعفه والطحاوي في الآثار وهو حديث ضعيف ففي سنده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وقال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.
Donc ça, c'est un commentaire qui a rapporté le hadith et qui parmi les savants qui ont affaibli ce hadith, et certainement quand je viens de lire que dans la chaîne de transmission il y a une personne, c'est une personne que les savants ils ont dit on ne prend pas de lui les hadiths, on n'écrit pas, on ne prend pas les hadiths de lui, et comme je viens de citer dans ce que je viens de lire. Donc ça c'est la réponse de la deuxième question. Troisième question, est-ce qu'il est permis de sortir de la mosquée après l'adhan ou pendant l'adhan? Mohamed l'a dit non, sauf si un besoin ou si ça nécessite. Une autre réponse.
Ce qui manque dans vos réponses, que souvent on entend oui, non, yajouz, pour ça, yajouz dans pas dans ça, mais ce qui est bien, qu'on essaie d'apprendre les arguments, au moins une fatwa, au moins, ça c'est le minimum des choses, au moins, c'est l'avis de tel cheikh, c'est l'avis de tel, c'est pas un argument, mais au moins, il est mieux que ton avis. Oui ou pas? Que je dis moi, oui, il y a 12. C'est quoi le meilleur? C'est l'avis d'une fatwa d'un grand savant ou c'est ta propre parole? Certainement. Et après, entre la parole d'un cheikh ou le délit du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certainement, c'est la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des degrés. Mais minimum, avoir ça.
On va offrir un livre à Mohamed. Quand même. Parce qu'il vous a donné une faïda. Oui, je ferai ça. On va lire la réponse.
الخروج من المسجد بعد الآذان ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان لمن وجبت عليه الصلاة.
Sortir de la mosquée après l'adhan, un groupe de savants a choisi que c'est interdit
de sortir de la mosquée après Al-Adhan, si la prière est obligatoire pour eux. Min ghayri udrin, sauf le cas min ghayri udrin, ou à condition qu'il n'a pas d'excuse, ou niyatu raj'ah, ou l'intention de sortir. Parce qu'on peut rentrer à la mosquée avec l'intention de sortir. Donc même si on entend l'adhan, on sort. Est-ce que c'est clair? À condition qu'on a déjà une niya, c'est-à-dire avant que je rentre à la mosquée, j'ai l'intention de sortir aussi. C'est-à-dire, par exemple, je dois rentrer et sortir. Donc j'ai mis l'intention que je vais sortir. Dans ce cas, il n'y a pas de mal de sortir.
لقول أبي هريرة رضي الله عنه وليس عمر بن الخطاب لقول أبي هريرة رضي الله عنه لرجل خرج من المسجد بعد الآذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم
إلى أكمل سيكوا سنو أبو هريرة رضي الله عنه وفت أبو هريرة رضي الله عنه إلى فيه بيرسون.
Il a dit une personne qui sortit de la mosquée après l'adhan. Il a dit « Amma hadha faqad asa Abu al-Qasim ».
Donc Abu Hurayra dit certes, il a désobéi Abu al-Qasim. Qui est Abu al-Qasim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ce athar, et même, il est dans, où il a rapporté Muslim, numéro 655.
Donc vous avez écouté l'argument qui interdit de sortir de la mosquée si on n'a pas une excuse, sauf si on a une excuse, sauf si on avait déjà l'intention de sortir de la mosquée. À part ces deux cas, on n'a pas le droit, même il est interdit, et on a écouté la parole de Abu Huraira radiallahu anhu.
C'est-à-dire, moi quand je rentre à la mosquée, avant que je rentre, j'ai déjà l'intention de sortir. Par exemple, j'ai perdu une chose. Est-ce que tu vas mettre l'intention de sortir ou pas? Tu rentres et tu ressors. J'ai oublié une chose dans la mosquée. Je suis dehors. Quand je suis dehors, je vais mettre l'intention que je vais sortir. Donc je rentre et ensuite je sors. Mais si tu es rentré à la mosquée, par exemple, et il est resté jusqu'à l'adhan, il est interdit que tu sors de la mosquée. Est-ce que c'est clair? S'il peut sortir. C'est pour ça qu'il a dit Aw niyatu raja'a. Raja'a. Non. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Tahrim, non. Et nous qala faqad asa Aba al-Qasim. Il a désobéi. Et c'est pour cela, non. C'est pour ça que les savants tirent que c'est une interdiction. C'est haram de sortir de la mosquée. Après Al-Adhan. Sauf dans les deux cas. Où on peut. La quatrième question, ou même si une faïda, est-ce que du'a, ou quels sont les moments où les invocations seront exaucées? Ce que j'attends, ce qui est dans le livre. Vous connaissez peut-être tous. Un, au moins un. Après l'adhan et avant l'iqama. Naam, entre l'adhan et l'iqama. Ahsant.
قال, الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
Qui montre que الدعاء il est exaucé entre l'adhan et l'iqama. C'est quoi l'argument?
Les hadiths d'Anas radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة.
Et le hadith a rapporté Ahmed, Abu Dawood, والترمذي, وعبد الرزاق, والبيهقي, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
Donc ça c'est le hadith qui montre que le دعاء لا يرد,
il n'est pas rejeté
entre Al-Adhan ou Al-Iqama.
Et c'est un moment où le musulman doit profiter de ce moment.
Et aussi, même les savants citent, parmi les endroits où le musulman peut lever ses mains pendant le du'a, c'est entre l'adhan et l'iqama. Et non pas comme ils font certains et la majorité des gens, chaque du'a, ils lèvent leurs mains. Lever chaque du'a la main ne fait pas partie de la sunnah. Donc, il faut lever les mains où le prophète a levé ses mains. Ou lever les mains, comme ils disent les savants, si vraiment, comme dans ce cas, vu que الدعاء, il est exaucé entre l'adhan et l'iqama, fayushra, raf, yani l'yadain, fi الدعاء, بين الأذان والإقامة. ومن أهل العلم من عدها من السنن الميتة. J'ai dit, vu que le dua est exaucé entre l'adhan et l'iqama, il est légiféré de lever les mains pendant ces moments. Et certainement, si le dua est exaucé, c'est mieux que de faire le dua de la bonne manière et la plus complète façon de faire abdu'a. Et parmi, et c'est pour ça que les savants disent, parmi les causes où les du'a sont exaucés, le fait de lever les mains. Parmi les causes que les du'a sont exaucés, c'est lever les mains. Mais dans les limites, si le prophète a levé ses mains ou pas. Et vu que dans ce cas, le du'a est exaucé, c'est mieux de le faire, comme je viens de le dire, de la bonne manière et la plus complète façon, et la façon la plus complète de faire abdu'a. Donc il est légiféré de lever les mains entre l'adhan et l'iqama, et non pas lever toujours, chaque fois on fait abdu'a, on lève les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun dalil, et c'est pas prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé ses mains chaque fois, je précise, chaque fois. De le faire de temps en temps, si c'est nécessaire, avec des limites, on peut le faire. Mais de lever les mains chaque fois, il n'y a aucun dalil qui prouve ça. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont considéré des fois, lever les mains entre l'adhan et l'iqama, c'est-à-dire en faisant du'a, est devenu une sunna morte. C'est-à-dire, peu de gens qui connaissent cette sunna. Et nous, on doit revivre la sunna. On doit revivre cela. Parce que si on ne fera jamais, comment on pourra faire apprendre les gens? Donc même avec, de temps en temps, on lève les mains entre l'adhan et l'iqama en faisant du'a, parce que c'est un temps où du'a est exaucé.
فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَى.
Et en plus, que le musulman profite de ce temps, pourquoi? Parce que c'est un temps où les du'as sont exaucés. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Et le prophète, il vous dit,
لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
Il n'y a pas meilleur que ce moment entre l'adhan et l'iqama que le musulman demande et invoque Allah, parce que c'est un moment où les du'as sont exaucés. Donc ça, les cinq points, ou les cinq questions-réponses, les quatre questions. La cinquième, aussi c'est une faïda, on n'avait pas cité dans les précédents durus.
Ma hukmu akhd al-ujra 'ala al-adhan wa al-iqama.
La cinquième question, quel est le jugement de prendre la paye pour l'adhan et l'iqama? Pourquoi la litus, Mohamed? Continue. Pas loin. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Pas loin. Pas loin. لا ما سمعش شيء. لا 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 ليس دليلا يستدل به. C'est vrai, là il y a juste. Mais qui peut détailler ou aller plus loin? Donc, nos adhan, nos mu'adhin, nos mu'adhin dans cette mosquée, on a des mu'adhin. Le fait de les abonner leur paye, c'est interdit? Que lui la demande. D'accord. D'accord. Oui. Mais nous, on parle sur le fait de prendre l'argent pour aller à l'Iqama. Je vais lire le. Il y a un détail à savoir, c'est très important. C'est très important.
يحرمو إجارتهما بأن يعقد عليهما عقد إجارة كأن يستأجر شخصا يؤذن ويقيم وذلك لأنهما قربة وعبادة ولا يجوز أحد يجوز أخذ الأجرة على القرب على القرب أما الجعال بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا من المال بدون عقد إلزام فهو جائز فيكون كالمكافأة ولا بأس بها لمن أذن ولا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه.
Et c'est la parole de Ibn Qudama, elle est dans le Mughni. Wa qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, fi fatawi,
wa la yukrahu, wa la yahrumu, akhdhu ar-rizqi min bayti al-mali alladhi huwa min ash-shay' min al-fayh masrafuhu fi salih al-muslimin.
Et ça c'est dans ces fatawa de Muhammad Ibrahim, al-Sheikh. Donc à la base, il est interdit que le mu'adhin, comme on vient de l'écouter,
يحرم إجارتهما بأن يعقد عليهما عقد إجارة كأن يستأجر شخصا.
C'est comme c'est-à-dire faire un acte, un contrat. Voilà, barakallah. Faire un contrat. Un contrat. Je te paye l'accord ou le contrat, c'est que je te paye pour que tu fasses. C'est-à-dire l'accord, c'est ça. Faire un accord. Et bien sûr, un accord, c'est une obligation. Si on s'est mis d'accord, c'est une obligation. Donc faire un accord ou un contrat entre le mu'adhdin en lui disant tu fais l'adhan et en contrepartie je te paye, c'est ça ce qui est interdit. Parce que l'adhan c'est une adoration. L'adhan c'est une adoration. Et on ne peut pas prendre l'argent pour faire une adoration. Mais, al-ju'al, bien yaqul, c'est quoi le ju'al? C'est normalement, on traitera ça normalement. Le jour où on arrivera à traiter les règles du commerce. Ahkam al-buyu'. Il y a plusieurs façons de faire le commerce. Pas acheter et vendre. Ça c'est le bay'a, ça c'est l'asl. Mais on a plusieurs façons de faire profiter l'autre. Pas forcément. Tu fais une chose ou tu me donnes une chose, je te donne l'argent, c'est-à-dire faire une vente, acheter et vendre avec ces conditions. Non, on peut faire autre type de commerce.
Parmi ces types, on les trouve ça dans les livres de jurisprudence, al-ju'alah. Donc c'est pour ça qu'il a dit, mais al-ju'al, c'est possible. Pour al-mu'adhin, il a donné un exemple. Il a dit, man adhana fi hadha al-masjid, fala ukala ukala, min al-mal. Mais de dire, celui qui fait l'adhan, on lui donne autant. Ça. Voilà, c'est comme une récompense. C'est pas un accord. On distingue entre un accord et un contrat, et je dis comme ça, je rentre, je dis, celui qui fait l'adhan, je lui donne ça. Donc, Cheikh l'a dit, بدون عقد إلزام sans qu'il soit un accord obligatoire
فهو جائز
donc il est permis فيكون كالمكافأة il est comme une récompense t'as gagné je te donne ça donc ça c'est une récompense donc ça يجوز
ولا يحرم il n'est pas interdit de donner au مؤذن ou du مقيم عطاء
c'est-à-dire un don, de lui donner une somme d'argent. Min baytil mal. C'est-à-dire de la trésorerie, c'est ça? Baytil mal.
Non, la trésorerie de la mosquée. Wa huwa ma yu'rafu waqtuna al-hadir,
ce qui est connu actuellement, ce qu'on appelle une paye. C'est-à-dire, nous n'a pas obligé qu'il fait. Lui, il est avancé. Une personne avance, il dit, moi je veux faire un adhan, je veux être un mu'adhin, il avance. On lui dit, à la fin du mois, on lui donne une paye. Mais ce n'est pas un accord, ce n'est pas un contrat obligatoire entre le muadhin et, par exemple, la mosquée. C'est-à-dire, on avance, ils sont mis d'accord, ensuite pour être muadhin. C'est comme un poste. Non, ça c'est un interdit. Mais il avance et il fait l'adhan, et nous on décide, on dit, à la fin, on te donne ça, autant. Donc ça, ce qui est permis. Et même, je viens de lire la parole d'Ibn Qudama, il dit que je ne connais pas une divergence. Il dit on ne connaît pas une divergence sur ce point. On ne connaît pas une divergence. La na'lamu khilafan fi jawazi akhdhi ar-rizqi alayhi. On ne connaît pas une divergence de fait de prendre de l'argent pour ça.
Wa qala Cheikh Mohamed Ibrahim al-Sheikh aussi, la parole de Al-Mufti Mohamed Ibrahim al-Sheikh aussi, il a aussi dans ses fatawas, il a donné le fatwa qu'il n'y a pas de mal comme on avait détaillé. Wallahu ta'ala a'lam.
Il nous reste combien de temps pour les chats? Alhamdulillah. Donc ça, c'est les 5 points ou les 5 questions qui sont dans le livre ou tirées du livre Sallu kama ra'aytumuni ou salli. Est-ce que tout le monde a compris? Hajj, Mohamed, c'est clair? J'ai pas entendu. On avait dit que le jugement du Adhan de ceux qui sont résidents, c'est un fard kifaya, c'est une obligation. Kifaya, fardu kifaya. Le terme kifaya, c'est une obligation. Mais kifaya signifie que si une personne le fait, elle devient plus obligatoire pour les autres. Est-ce que c'est clair? C'est ça le jugement. On a dit, on avait cité, al-qawl al-rajih, annahu fardu kifaya. Si là, dans 20 minutes ou 25 minutes, lors de Isha rentre, si une personne parmi nous fait l'adhan, il devient plus obligatoire pour les autres. Est-ce que c'est clair? C'est un fard kifaya. Par contre, et aussi il est légiféré, même si la personne est seule. On a cité le prophète sallam, et quand il a dit, Ya'jabu Allahu min ra'i ghanam, il a dit Allah Ta'ala s'étonne d'une personne qui est loin dans la montagne berger, qui fait l'adhan, il fait l'adhan, il fait le salat jusqu'à la fin du hadith. Pour signifier que même si on est seul, il est légiféré de le faire. Est-ce que c'est clair? Mais ce n'est pas une condition. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que les ulama, ils ont dit,
faire la prière sans adhan, elle est valide. Est-ce que c'est clair? Mais si on est en groupe, on doit le faire, et surtout on a dit c'est un fard qui faille. Par contre, pour le voyageur, comme on avait parlé, c'est un wajib, c'est une obligation pour le voyage. Aussi on a cité le hadith. Quand le prophète l'a dit, un parmi vous fait l'adhan, et le plus grand parmi vous fait l'imam, qui devient un imam pour l'autre. Et on a dit dans le savant, ils ont tiré ça de ce hadith, ils ont dit, ceux qui ont rapporté le hadith, eux-mêmes ils étaient en voyage. Et même malgré ça, ils étaient en voyage, le prophète les a demandé qu'ils fassent l'adhan. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, vu c'est un ordre, ils ont ordonné, donc c'est un wajib pour le voyageur. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Ah, c'était ça la question? J'ai pas entendu. C'était quoi? On a dit, on vient de citer. Si c'est un poste, et surtout le contrat. Donc il faut voir comment est fait le contrat. Si c'est un contrat et c'est une obligation, en faisant l'adhan, je te donne autant. C'est comme le travail. Tu travailles 7 heures, tu as ta journée. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est interdit. Mais si une personne devance et dit, moi je fais l'adhan et l'iqama, et à la fin, la mosquée ou les responsables donnent une somme d'argent. Parce que, comme une récompense, là, vous répondez aux questions, je vous donne un livre. Est-ce qu'il y a un contrat? Il n'y a pas un contrat. C'est ce type qui est valide pour l'adhan et pour la mosquée. Pour le mouadhan, il part avec la mosquée. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut éviter qu'il soit un contrat en avance, c'est-à-dire en contrepartie de ton adhan, je te paye. C'est-à-dire, je te paye pour l'adhan. On a 5 prières par jour, fois 30 jours, j'ai 150 adhan, c'est ça? En supposant qu'il y ait 30 jours, j'ai 150 adhan, ben chaque adhan, je te paye. Ça, c'est interdit. Et il y a même des hadiths sur ça. Mais, si le mouadhin avance, où il dit au responsable, moi je vais faire l'adhan. Il ne sait pas, c'est pas dans son intention que parce qu'il va gagner, non. Il avance, il dit, moi je vais faire l'adhan. Il n'y a pas un accord. C'est pas une obligation. Mais eux, à la fin, chaque mois, ils lui donnent une somme. Donc ça, il n'y a pas de mal. Ce qu'on appelle al-ju'ala. Une prime ou une récompense, voilà. Barakallahu. Là, il me dit, celui qui fait la prière chez lui. Les ulama disent, il est masnoun. C'est une sunna que la personne fait al-adhan et al-iqam. Est-ce que c'est clair? Non, même s'il est en groupe aussi, qu'ils font l'adhan et l'iqam. Hein? Non, on avait dit les deux. Non. Non, c'est pas une obligation. Yusham. Yusham an yaf'al al-iqama. Et Cheikh Hassan Chemi, il dit, même si personne ne fait ni adhan ni iqama, la prière elle est valide. Est-ce que c'est clair? Là. On va croire le Cheikh Hassan Ibn Rahim. Non. Là, je vais aussi faire les 5 questions-réponses du livre Arkan al-Islam. Et ce livre, on a dit, de Cheikh Al-Uthaymi Rahimahullah, c'est des fatawas tirés de l'ensemble de ces fatawas, de plusieurs volumes. Est-ce que 22, est-ce que 25? Je ne me rappelle pas combien de volumes les fatawas de Cheikh Al-Uthaymi. Mais peu importe, l'ensemble des fatawas de Cheikh Al-Uthaymi, qui sont plus que 20 mujallad, 20 livres, ils ont tiré certains fatawas qui traitent les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Des fatawas dans l'aqida, fatawas dans le salat, dans le zakat, dans le saum, dans le hajj. Et ce livre, il regroupe des fatawas, c'est les choisis parmi ces fatawas. Et on va lire ensemble, inshallah, 5 fatawas, inshallah, pour terminer. La première question, tirée du livre Arkan l'Islam, هل يصح الأذان بالمسجل? Est-ce que l'adhan, il est légiféré, ou il est accepté, ou il suffit de le faire par un enregistreur. Par exemple, Là, on est dans la mosquée. J'ai un téléphone où le adhan est enregistré. Et après, à l'heure de la prière, je le mets au lieu qu'une personne le fait. Et pourquoi? Naam. L'imam. Il a dit la yajuz. Il n'est pas permis. Pourquoi? Ah. Parce qu'il y a juste des yajuz. Tout le monde le dit, Mohamed. Hein? Aïe, il aura hisnul muslim. C'est quoi la citadelle du musulman? Tu. Sahbi. Le titre, il est. Hein? Aïe, celui qui. Masha Allah, c'est la réponse d'Issa. D'accord, c'est un musulman? Ah, il veut un autre, tu vois maintenant, c'est devenu. Non. Ah. Ah, on va te donner le rôle de la femme dans la réforme de la société. Comme ça, tu lui donnes la vie des compagnons. Tafsir, tu zammes. Ou tu veux dire, toi, si tu auras besoin de ça, peut-être. Zammes. La réponse al-adhan bil musajjil ghayr sahih. Le adhan avec un enregistreur n'est pas valide. لان الاذان عباده. Parce que regardez subhanallah, et ça c'est, ils ne sont tirés toujours les savants quand ils répondent aux questions. Ça, c'est un signe de sortir des livres, en lecture, en lisant les livres. Ou c'est rare, on trouve un savant qui répond à une question, ils n'ont pas l'argument. Est-ce que c'est clair? Sauf dans des cas particuliers, dans un temps bien particulier, ça dépend de la personne qui est en face de lui, ça dépend de la question, comment elle est posée, est-ce qu'en direct, est-ce que par téléphone, est-ce qu'il écrit, ça dépend le cas. Mais souvent, toujours, il cite le pourquoi. Il ne laisse jamais la personne qui pose la question liée au shirk. Non. Le shirk, c'est ce qu'il fait, c'est toujours, il essaie de lier la personne avec le prophète, avec sunna et le kitab. Donc lui, c'est juste, c'est un guide, il oriente que là, celui qui pose la question, que voilà, la réponse, elle est dans le Coran et dans le sunna. Donc il a dit, لِأَنَّ الْأَذَانِ يَقَمَا, parce que l'adhan, c'est une adoration. وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا مِنْ نِيَّةٍ. Et l'adoration nécessite une intention. Donc certainement, si on met en musulman, on n'a pas la niya, donc certainement, cette adoration n'est pas valide. C'est pour ça qu'il n'est pas permis ou accepté de faire l'adhan avec l'enregistreur. Deux. La deuxième question. إِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ الْمَسْجِدَ والمؤذن يؤذن فما الافضل له. Si une personne rentre à la mosquée et le muadhin fait le adhan, ou il est en train de faire l'adhan, quel est le mieux pour lui? C'est-à-dire, je développe la question, est-ce que c'est mieux que lui qui il répète pour avoir la récompense de la répétition du adhan, parce qu'il a entendu le muadhin faire l'adhan, ou le fait qu'il rentre à la mosquée, il va faire tahiyyat al-masjid? Mohamed. Masha'Allah, barakallah, une bonne réponse. Hassan. Ça, on avait expliqué, mais vu que Mohamed qui a répondu le premier, il aura un livre. قال الشيخ رحمه الله الأفضل أن يجيب المؤذن. Le mieux qu'il répond ou qu'il répète الأذان derrière le مؤذن. ثم يدعو بعد ذلك, ensuite il dit ou il cite les invocations après l'adhan. Bima walad. Thumma yadkhulu fi tahiyyat al-masjid. Ensuite qu'il fait tahiyyat al-masjid, c'est-à-dire la prière, les deux unités ou les deux unités de salutation de la mosquée. Pouvez les faire.
إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك إن دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة.
Sauf ou à l'exception d'un cas. Donc à la base, celui qui rentre, il est en train d'entendre le mu'adhin, le mieux qu'il répète ce qu'il dit à le mu'adhin. Comme ça, il aura la récompense du adhan. Ensuite, il fait tahiyyat al-masjid. Parce qu'on avait dit que l'adhan, il a un temps bien précis. La répétition, tu dois la faire pendant l'adhan. Donc, tu n'as pas un autre temps pour répéter l'adhan. Par contre, la prière, tu as tout le temps pour la faire, tant que salat al-fard n'est pas faite. Sauf le jour du la prière du vendredi.
والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب.
Regardez les priorités des choses. Sauf le jour du vendredi, si on rentre et on est en train d'entendre l'adhan, et certainement le deuxième adhan ou l'adhan du khutba, c'est quand le imam monte sur le minbar. C'est là, le khutba commence. Le temps, la prière du vendredi commence à partir du moment où le imam il a monté sur le minbar. Donc le muadhin, la personne est rentrée le jour du vendredi, il a entendu le muadhin fait l'adhan. Est-ce que il doit aussi faire le même cas? C'est-à-dire répéter ce qu'il dit al-mu'addin pour avoir la récompense. Ensuite, il fait la prière, non. C'est à la base, s'il rentre le vendredi, qu'il fasse les deux unités en priorité. Et non pas suivre le mu'addin. Même si tu le rates, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le fait d'écouter le khutbah, c'est une obligation. Et répéter derrière l'imam, ce n'est pas une obligation. On avait dit, c'est une sunna. C'est une prière. Donc, c'est quoi le plus priorité? C'est ne pas répéter pour se précipiter à faire un wajib qui est le fait d'écouter le mu'adhin, ou se tarder par les deux unités, ou par en répétant le adhan. Donc, tu vas tarder, ensuite tu vas faire les deux unités, tu vas tarder plus et tu vas peut-être se priver de ne pas écouter al-khutbah. Donc c'est pour ça qu'il a dit al-muhafadat al-wajib awla min al-muhafadati ala ghayri al-wajib. Comme baqiya al On avait parlé sur le fait de dire innaka la tukhlifu al-mi'ad. Qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ziyadatu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Donc ça c'est la question. Fi dhikri alladhi ba'da al-adhan hal hiya sahiha? Donc le fait de rajouter l'expression innaka la tukhlifu al-mi'ad dans l'invocation après l'adhan, est-ce qu'il est authentique ou elle est valide? Al-jawab, la réponse. Hadhihi al-ziyadatu mahallu khilaf bayn ulama' al-hadith. Donc le fait de rajouter innaka la tukhlifu al-mi'ad, c'est un ajout où les savants du hadith sont divergés. فمنهم من قال بها انها غير ثابته لشذوذها. Donc certains savants ils ont dit elle n'est pas authentique. لان اكثر الذين رووا الحديث لم يروا هذه الكلمه. Parce que c'est quoi la raison? C'est pour ça qu'il a expliqué le fait de dire « lishududia ». Parce que la majorité de ceux qu'ils ont rapporté, qu'est-ce qu'on doit dire après, « al-adhan », ils n'ont pas rapporté cet ajout de dire « innaka la tukhlifu al-mi'ad ». Wal-maqamu yaqtadi al-la tukhlif. Mais l'endroit ou le moment nécessite de ne pas l'enlever. لأنه مقام دعاء parce que c'est un moment d'invocation.
وثناء وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به.
ومن العلماء إطام ساكسابون كي يجي إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي غيرها.
Certains savants, ils ont dit que les hadiths rapportés dans ça, ils sont authentiques. C'est-à-dire, eux, ils ont authentifié ces hadiths où il y a l'expression إنك لا تخلف الميعاد.
وممن ذهب إلى تصحيحها.
Et parmi les savants qui sont partis, ils ont choisi ou ils ont authentifié cette version,
الشيخ عبد العزيز ابن باز وقال إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح.
Donc lui il a authentifié le hadith où, qui est dans son al-Bayhaqi, il a dit que la chaîne de transmission ou même al-Sanad, la chaîne de transmission, elle est authentique.
الأول أنك تبقى قائم. نبغى نتكلم إن شاء الله شو صار.
Les deux dernières questions إن شاء الله. هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ Est-ce que on suit, on répète celui qui fait الإقامة؟
Je parle pas sur l'adhan.
Est-ce qu'on répète derrière celui qui cite l'Iqama?
Hassan.
Limala. Je vous ai dit, Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba de Humul Al-Irfani. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, non, c'est pas ça. Même ma mère, elle ne veut pas me dire oui ou non. Mais je veux un délai, c'est quoi le. Au moins une fête, moi je vous ai dit. Non, Mohamed. Attends, je vais laisser le Hassan comme ça, on va pas. Il veut prendre un livre, laisse-le prendre un livre. Vas-y, le Hassan. Ah, الدليل عدم الدليل. Tu veux me la refaire aussi toi aussi, hein? Naam Mohamed. Il y a? Sûr? D'accord. C'est quoi le...
Donc celui qui voit que l'Iqama c'est
Aïe, qui a une réponse? C'est-à-dire peut-être on délaisse une chose. Est-ce qu'on répète derrière de celui qui fait l'Iqama? Pas l'Adhan. L'Adhan on sait, on avait expliqué. Non. Je vais vous lire une réponse.
هل يردد خلف من يقيم يشرع
للجفري
لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم.
Il est légiféré de répéter, de dire la même chose de ce qu'il dit, c'est-à-dire celui qui dit الإقامة.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم.
C'est quoi l'argument? Le hadith il est général. C'est quoi le hadith?
قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء.
Si vous entendez l'appel. Le terme dans le hadith il est terme النداء. Il n'a pas dit si vous entendez الأذان ou si vous entendez الإقامة. Il a dit si vous entendez l'appel.
فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
Et le hadith on avait expliqué
وَالْإِقَامَةُ نِدَاءٌ.
Il dit الإقامة c'est un appel.
وَالْأَذَانُ.
Et aussi l'adhan aussi c'est un appel. Il y a un autre hadith qui confirme ça
كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. Qui dit que, c'est-à-dire dans l'adhan on fait rentrer ou ça, l'إقامة ça fait partie du nida et l'adhan ça fait partie d'un nida parce que les deux c'est un appel. Pourquoi? D'où il a tiré ça?
قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي دون
Il est sahih. Il a dit Bayna kulli adhanayni salat. Entre deux, chaque adhan, une prière. Mais dans l'explication des hadiths, c'est quoi entre deux, chaque adhan, une prière? C'est-à-dire entre l'adhan ou l'iqama. C'est-à-dire, l'iqama, il a appelé adhan. Et l'adhan, il a appelé adhan. Donc c'est pour ça, les deux, ils ont le nom adhan. Donc c'est pour ça, il a dit, les deux, c'est deux appels. Et c'est pour ça, il est légiféré de répéter ce qu'il dit, al-muqim. Et aussi, il y a une autre fatwa de l'ajna d'aïma aussi, à l'époque de Cheikh Nobaz, rahimahullah, dans la page 92. Ici, la même réponse. Ils ont donné le même jugement qu'eux. Il est légiféré aussi de répéter de celui qui cite Al-Iqama. Et certainement, ils ont aussi cité les mêmes hadiths que إِذَا سَمِعْتُمُ أَنِّدَاءَ فَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِقَامَةُ نِدَاءُ أَذَانٍ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٍ يعني الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ. Donc ça c'est la vie quand on choisit selon les deux hadiths.
Et alhamdulillah, même je viens de terminer. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Juste 10 secondes. On a terminé le verse concernant le jugement de l'adhan iqama le mercredi prochain, inshallah, comme d'habitude. Et le vendredi, inshallah ta'ala, le vendredi à la base, on doit faire la matière de jurisprudence. Mais je ne ferai pas la matière de jurisprudence, mais je vais consacrer le mercredi et le vendredi sur un sujet. Un autre sujet. Donc peut-être je vais prendre deux séances, le mercredi et le jeudi. Et le sujet, il est très important, qui est Chokm. Chokm, écoutez très bien le titre du sujet que je vais traiter. Chokm wa fadl ta'allum al-lugha al-arabiyya. Le jugement d'apprendre la langue arabe. Et ça, je vais traiter, je vais citer les paroles d'Il Madahib al-Arba et tous les savants jusqu'à aujourd'hui. Sur les 14 siècles, je vais citer, inshallah ta'ala, tous les paroles des savants qui ont traité ce sujet. Et l'importance, et on va voir le jugement. Est-ce que c'est une obligation ou pas d'apprendre la langue arabe? Donc, inshallah ta'ala, le rendez-vous le mercredi, inshallah ta'ala, entre le Maghreb et l'Isha. Et le vendredi, entre le Maghreb et l'Isha, le sujet c'est Hukm wa fadl ta'allum al-lugha al-arabiyya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك